Accent d'Europe, Alice Roujat.
Bonjour. Dans la région des Marches, en Italie, le long de la mer Adriatique, les fabricants de chaussures sont au bord de la faillite, conséquence d'une guerre qui dure depuis plus de 3 mois en Ukraine. À cause des sanctions financières imposées par l'Union européenne, l'escarpin Made in Italy, nec plus ultra de la chaussure de luxe, a perdu ses premiers clients, les Russes, qui représentaient jusqu'à 80% des exportations. C'est un marché menacé que des milliers d'artisans du secteur appellent aujourd'hui à sauver. Un reportage de Blandine Hugonnet.
Dans la province de Fermo, au cœur du pôle industriel dédié à la chaussure de luxe italienne, un panneau en cyrillique nous accueille chez Ilasio Renzoni, fabricant de souliers depuis 20 ans pour l'Europe de l'Est. Assis dans son showroom, au milieu d'élégantes bottes à fourrure, Ilasio reçoit un message vocal de Grozny en Tchétchénie. C'est un client, il n'arrive pas à faire le virement pour régler une commande, traduit Victoria, l'assistante russe au fabricant d'épité. Sa banque italienne refuse les roubles des acheteurs de Russie, son plus gros client.
Voilà, avec les sanctions, tous les jours, on a ces blocages de paiement.
Et c'est là tout le problème. À moins de faire transiter les précieuses boîtes par de multiples pays et ouvrir un compte en Chine pour convertir les roubles, solution trop complexe et trop coûteuse pour les petits artisans, les ventes sont à l'arrêt. Les sanctions financières imposées depuis mars par l'Union européenne cible spécifiquement les produits de luxe, interdit d'être exportés en Russie au-delà de 300 euros et les transactions bancaires avec Moscou sont bloquées.
Ici, c'est notre entrepôt avec tous les cartons de chaussures qui restent bloqués là, qui étaient tous pour le marché russe et ukrainien.
Face à ce petit patron, un mur de boîtes de la collection estivale, sandales à breloques cousues main, escarpins à paillettes, derby en cuir. Au total, 2000 paires lui restent sur les bras, soit près de 200 000 euros de stock, aujourd'hui invendable.
En réalité, ce n'est pas contre la Russie qu'ils ont pris des sanctions, c'est contre nous. Parce que nous, on est des petits artisans qui, dans cette zone, travaillent tous avec le marché russe. Et parce que nos chaussures, qui sont d'une certaine qualité, d'un certain prix, seraient très difficiles à vendre sur le marché italien ou d'autres marchés européens.
Entourée de semelles sur une chaîne de montage, une ouvrière en blouse travaille le cuir d'une chaussure. La petite usine de Marino Fabiani et sa vingtaine d'employés tournent encore, mais sûrement plus pour longtemps, avoue en colère ce créateur de sur-mesure. Dépendant à 80% des clients russes, il craint la faillite.
Quand la guerre a éclaté, je me suis effondré parce que ce sont justement mes clients principaux qui sont en conflit. Et je n'ai pas d'alternative. J'ai tout perdu. Mes fournisseurs ne peuvent pas me fournir le matériel si je n'ai pas de garantie. Et nous, on travaille dans la mode qui change du jour au lendemain. Le Made in Italy est menacé. Notre secteur manufacturier est menacé.
Pénaliser les exportations italiennes, c'est favoriser les chaussures chinoises ou turques, dénonce le fabricant. Alors pour sauver leur artisanat et un marché conquis depuis la chute de l'URSS, une trentaine de fabricants de la province ont tenté le tout pour le tout. Aller à Moscou, rassurer le client russe. Marino en revient tout juste.
Je sentais dans mes veines qu'on perdait ce marché. Donc j'ai voulu aller à Moscou pour évaluer les dégâts et assurer à mes clients qu'on faisait notre possible. Parce que moi et les marches, on vit de ce marché. À tel point que pour qu'on ne perde pas cette exclusivité russe, et après cette période de Covid, la région des marches nous a donné une aide pour participer à ce salon de la chaussure à Moscou.
Il faut dire que le secteur de la chaussure haut de gamme, concentré sur quelques kilomètres carrés de territoire, fait vivre ici plus de 30 000 Italiens, soit 70% de cette population. Dans cette région, c'est tout le secteur de la mode qui est en crise depuis déjà 8 ans, rappelle Paolo Silenzi, président du réseau local des 3200 cordonniers.
C'est une crise qui est apparue dès l'annexion de la Crimée et les sanctions de 2013 qui ont réduit cette exportation vers la Russie de 950 millions d'euros à 258 millions aujourd'hui, pour un marché russe qui représente toujours 70% des ventes. Donc c'est évident que l'impact pour le secteur de la chaussure est énorme sur notre territoire, parce qu'au niveau national, l'export russe ne vaut que 1,3%.
Il PIL vale 1,37%.
Le pôle industriel de Fermo concentre toute la filière de la chaussure de luxe 100% italienne, entre design, cuir, couture et assemblage. Bref, c'est la Ferrari de la chaussure qu'il s'agit de sauver, résume le président des artisans.
Quand on parle de Made
made in Italy, le gouvernement cherche à le protéger avec la traçabilité, les certifications, etc., comme on le voit pour le vin. Mais on pourrait le faire aussi pour la chaussure. Donc créer une sorte de label pour ce produit qui vient de notre territoire, mais qui représente toute l'Italie. Il faut valoriser ça, non le gâcher, parce que ces chaussures, c'est le made in Italy, c'est tout un symbole.
Appelé au secours, le gouvernement italien vient de débloquer 200 millions d'euros, mais rien de suffisant à long terme, dénoncent les fabricants de chaussures. L'espoir vient plutôt des grandes marques de luxe. Fendi et Louis Vuitton ont flairé le savoir-faire italien et sont déjà en train de s'implanter dans le petit pôle de l'escarpin italien sur les bords de l'Adriatique.
Direction la Suisse, décidément un peu à la traîne dans la chasse aux oligarques. La Suisse, où dort une fortune globale russe estimée à près de 200 milliards d'euros par l'association des banques helvétiques. Mais le pays, censé saisir ses avoirs comme le font les autres pays occidentaux, n'en a pas prélevé un dixième. Pire, certains de ces francs ont même été rendus à leurs propriétaires. Alors à Washington, on s'agace. Le Congrès américain a lancé une commission d'enquête pour savoir à quoi joue la Suisse. Question que se pose aussi les élus de gauche dans le pays. Les explications de Jérémy Lanche.
Il y a quelque chose de pourri en Suisse. Le pays est devenu l'auxiliaire de Vladimir Poutine. L'attaque est violente. Elle est venue d'un homme d'affaires anglo-américain, Bill Broder, spolié par l'État russe. Une partie de son argent se trouve en Suisse, sur des comptes détenus par des Russes, sous l'œil bienveillant des autorités helvètes, selon lui, qu'il accuse de complicité avec Moscou. Les propos de Bill Broder devant le Congrès américain ne sont en tout cas pas passés inaperçus auprès du gouvernement suisse, qui a fait part de son mécontentement à Washington. Sauf que la critique sur la mansuétude présumée de Berne auprès de Moscou ne vient pas que de l'étranger. En Suisse aussi, des parlementaires de gauche comme de droite demandent que leur pays se mouille davantage, notamment en autorisant l'Allemagne à exporter des armes de guerre made in Suisse à l'Ukraine. Les derniers sondages montrent en tout cas que l'opinion publique est d'accord pour hausser le ton face à Moscou, car pendant ce temps, la place financière tourne à plein régime, avec des entreprises de négoce qui achètent et vendent toujours autant de pétrole russe depuis Genève. Quant aux avoirs des oligarques en Suisse, les banquiers eux-mêmes les estiment à 150 à 200 milliards de francs suisses. Problème, les autorités n'en ont gelé que 7,5 milliards et une partie de ces fonds a même déjà été rendue à leurs propriétaires.
Et chaque mercredi dans Accent d'Europe, un mot, une chronique. Cette semaine en Turquie, un mot mais surtout un chiffre, 70%. Avec 70% d'inflation en avril sur un an, les prix continuent d'augmenter et le pays plonge. Et encore, 70% c'est le taux officiel. Selon un groupe d'économistes indépendants, il se situerait plutôt au-delà des 150%. Dans tous les cas, c'est du jamais vu depuis plus de 20 ans et l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan. Bonjour Anand Lauer.
Bonjour Alice, bonjour à tous.
Anne, l'inflation frappe la plupart des pays développés, mais comment expliquer qu'elle atteigne de tels sommets en Turquie ?
Alors, l'inflation à deux chiffres est une constante ici depuis 5 ans environ. Mais ce n'est qu'à l'automne dernier que les choses ont vraiment commencé à déraper, si l'on peut dire. En août, la hausse des prix à la consommation s'établissait autour de 19%. À partir de septembre, la Banque centrale a décrété des baisses successives de son principal taux directeur sur ordre du président Erdogan. Le taux d'inflation a rapidement dépassé les 20% en novembre, 36% en décembre, 48% en janvier. Il risque même d'atteindre 80% en mai, même si la Banque centrale n'a plus touché à ces taux depuis des mois. Alors pourquoi ? Parce que cette baisse des taux initiale a provoqué une chute de la monnaie turque, la livre, par rapport au dollar. Tayyip Erdogan en fait parie sur une livre faible pour stimuler les exportations et soutenir la croissance dans l'espoir à moyen terme d'encourager l'emploi et de réduire l'inflation. Mais dans une économie dépendante des importations, eh bien cette chute de la monnaie entraîne mécaniquement une hausse des prix de tous les produits importés, énergie, matières premières comprises. À cela est venue s'ajouter la guerre en Ukraine qui a entraîné une flambée des prix de l'énergie et de certaines denrées agricoles sur les marchés internationaux, Bref, l'économie turque est embourbée aujourd'hui dans ce qu'on appelle une spirale inflationniste.
Et que fait le gouvernement pour tenter de calmer la situation ?
Eh bien, pas grand-chose. Il annonce des baisses de TVA sur les produits de consommation courante. Il invente des instruments bancaires pour encourager les Turcs à vendre leurs dollars et donc à soutenir un peu la livre. Le salaire minimum a augmenté de 50% en janvier. 50%, ça paraît énorme, n'est-ce pas ? Mais cela n'a pas sauvé le pouvoir d'achat des Turcs, puisque l'inflation officielle avait déjà dépassé 50% en février. Le nœud du problème, en fait, c'est la politique monétaire de Tayyip Erdogan et l'absence d'indépendance de la banque centrale. Non seulement le président ne veut pas qu'elle augmente ses taux pour lutter contre l'inflation, comme le font en ce moment la plupart des banques centrales, mais il soutient que ce sont les taux d'intérêt élevés qui provoquent, en fait, l'inflation. C'est donc bien un contre-modèle économique. En gros, le gouvernement dit aux Turcs, les derniers mois ont été compliqués, la guerre en Ukraine n'a pas aidé, mais vous verrez, d'ici l'été, l'inflation va ralentir. Tout cela sans avoir eu à augmenter les taux, donc sans pénaliser la croissance, donc sans forte hausse du chômage.
Et pendant ce temps, pour la population turque, c'est un choc de pouvoir d'achat quasi quotidien.
Oui, et quand vous vivez à Istanbul, la capitale économique, il n'y a même pas besoin de regarder les étiquettes pour sentir à quel point l'inflation est forte et à quel point les gens en souffrent. Et ils ne parlent quasiment que de ça, dans les rayons des magasins, avec le caissier, entre collègues, sur le trottoir, devant les boutiques. Certains commerçants se sentent obligés de se justifier auprès de vous et ils vous décrivent la hausse de leurs coûts pour justifier celle de votre facture. Cet entêtement à ne pas augmenter les taux de la Banque centrale, ce n'est donc pas seulement un pari économique pour Recep Tayyip Erdogan, mais aussi un pari politique. La cote de popularité du président est au plus bas à cause de cette inflation. Son modèle doit donc faire ses preuves avant les élections programmées dans un an.
À Istanbul, Anand Lauer, notre correspondante. En France aussi, les prix explosent. On pense à l'essence, au pain ou à l'huile de tournesol, mais cette fois, il est question d'électricité, autre conséquence de la guerre en Ukraine. Dans certaines communes, le montant des factures a déjà doublé ou triplé, et dans le sud, entre Marseille et Aix-en-Provence, certaines mairies ne peuvent tout simplement pas affronter de telles dépenses. Yoram Melloul.
Il n'y aura pas de piscine cet été pour les habitants de Cabriès. La mairie ne peut tout simplement plus se le permettre. Les chiffres donnés par la maire de la ville, Anna Paula Ventron, impressionnent. Au 1er mai, elle avait déjà dépensé l'ensemble du budget énergie de la commune, soit 350 000 euros. En fermant la piscine, elle espère faire 100 000 euros d'économie. Et l'élu n'est pas la seule à se retrouver dans cette situation dans le département, avec de nombreuses communes qui ont vu leurs dépenses en énergie doubler par rapport à l'an dernier, comme à Salon de Provence par exemple, où la facture d'énergie est passée d'un peu moins de 2,5 millions d'euros à un peu plus de 4 millions d'euros. La facture d'électricité de la piscine seule est passée, elle, de 8 000 à 54 000 euros par mois. À Salon aussi, il faudra donc réduire les dépenses, comme dans la ville voisine de Sénas, où le maire ne va pas renouveler 4 ou 5 contractuels.
Mais Yoram Melloul, pourquoi les communes se trouvent dans cette situation ?
En fait, les communes subissent de plein fouet la loi du marché. À l'inverse des particuliers, l'augmentation des prix de l'énergie n'est pas bloquée pour elles et toutes ces dépenses supplémentaires arrivent de manière complètement imprévue. Alors, face à cette situation, les élus demandent la mise en place d'un bouclier tarifaire. Le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, fait ici office de porte-parole pour les élus du département. Il a déjà écrit à Jean Castex, quand celui-ci était encore Premier ministre, bien sûr, pour alerter le gouvernement et demander que les prix soient bloqués. Sans cela, les communes risque de devoir réduire encore plus les dépenses ou bien augmenter les impôts.
Merci Yoram Melloul. À bientôt. Dans toute l'Europe, le nucléaire fait débat. La question des déchets électrise les consciences partout où des sites d'enfouissement ont été retenus, comme à Bure en France. En Suède, en revanche, la question est plus apaisée. Le gouvernement a pris fin janvier une décision qui va être observée de près, la construction et la mise en service d'une installation de stockage qui conservera les déchets radioactifs pendant au moins 100 000 ans. Une décision validée par les élus et les habitants de Östhammar, la commune retenue pour accueillir cette installation. Frédéric Faux est notre correspondant en Suède. Il s'est rendu dans ce petit village à 150 km au nord de Stockholm. Son reportage.
À Höst-Hamar, la décision de creuser sous la commune une installation de stockage définitif des déchets nucléaires à 500 mètres sous terre n'effraie pas du tout Karine.
Nous devons produire une énergie décarbonée de façon sûre. Ici, nous avons un bon sous-sol, donc c'est bien que nous prenions notre part dans ce traitement des déchets.
Les élus de la commune sont également derrière ce projet, à l'image du maire, Jacob Spangenberg.
Nous sommes 49 conseillers au sein de la mairie, et lors de notre vote final en octobre 2020, 39 étaient pour, 8 contre, quelque chose comme ça.
Un enthousiasme d'autant plus étonnant qu'en Suède, les communes accueillant des installations nucléaires ne bénéficient d'aucun avantage financier.
La différence avec la France, par exemple, c'est que les taxes foncières ou sur l'activité économique sont payées directement au gouvernement. Donc cette industrie n'apporte aucune aide aux municipalités, sauf qu'elle permet d'avoir un bon marché de l'emploi.
Cette décision de stocker 12 000 fûts de combustible irradiés pendant 100 000 ans n'a rien d'anodin. Mais les habitants d'Östhammar, et c'est la différence avec le site français de Bure dans la Meuse, où est envisagé un site identique, ont déjà une culture du nucléaire. La commune accueille la centrale de Forsmark, la plus grande de Suède. Karine, que nous avons entendue, y travaille, ainsi que 1000 autres habitants de cette petite ville. Et pour Marie Bargren, spécialiste environnement au sein de la municipalité, cet aspect est essentiel.
C'est l'une des explications de cette acceptation. Soit vous, personnellement, soit dans votre famille ou parmi vos amis, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire et qui connaît ses règles de sécurité. Et puis les quelques problèmes qu'il y a pu avoir ont tous été réglés de façon sûre. Les gens comptent sur le nucléaire.
L'autre facteur, c'est l'information.
Bienvenue dans notre espace d'exposition, nous allons le visiter ensemble.
L'entreprise SKB, chargée par les opérateurs suédois du nucléaire de gérer ses déchets, a depuis 15 ans pignon sur rue au centre même d'Östhammar. C'est là que les habitants et autres visiteurs peuvent voir et toucher les conteneurs de cuivre où seront scellées les pastilles d'uranium avant d'être descendues dans des galeries creusées dans le granit tout près de la centrale de Forsmark. Martin Hoff est le porte-parole de SKB.
Notre méthode est basée sur trois barrières. Vous avez des échantillons du sous-sol ici à Forsmark. C'est du granit qui a presque 2 milliards d'années. C'est à l'intérieur que nous allons creuser notre dépôt, dans un ensemble de tunnels qui s'étendra sur 60 km. Et ici, vous avez un échantillon de cuivre. C'est ce qui va encapsuler le combustible et empêcher la fuite des radiations. Les conteneurs en cuivre vont ressembler à ça.
Donc on a un gros tube qui doit faire à peu près 1 mètre de diamètre.
Et ensuite, autour des conteneurs, il y aura une sorte d'argile, de la bentonite, qui servira de tampon pour absorber les mouvements à l'intérieur du sous-sol et aussi pour empêcher le contact avec les eaux souterraines. Cette salle d'exposition n'est qu'un exemple de ce que nous essayons de faire à SKB. Pour nous, il est important d'être ouvert, transparent, que les gens puissent venir et avoir une meilleure idée de ce que nous faisons.
Et la méthode semble marché, si l'on en croit les enquêtes annuelles réalisées parmi les habitants.
Que pensez-vous du projet SKB de construire un dépôt pour du combustible nucléaire usagé à Forsmark?
En 2013,
76% étaient pour. Maintenant, c'est 82%.
Il y a donc des opposants au projet. Ils pointent notamment l'avis de certains experts qui pensent que ces fameux conteneurs de cuivre, les siècles passant, pourraient céder sous la corrosion. Mais à Östhammar, ils ont du mal à se faire entendre. C'est le cas de Bertil Hamn, opposant historique à l'industrie nucléaire.
Notre cour environnementale a posé 5 questions sur ces conteneurs de cuivre, mais elles sont restées sans réponse. Les sondages sont en faveur du nucléaire, car il n'y a pas eu d'accident majeur à Forsmark. Mais cela ne veut pas dire qu'un dépôt va être sûr pendant 100 000 ans.
Si rien ne vient perturber le calendrier de SKB, le combustible irradié commencera à être stocké à partir des années 2030 pendant 70 ans. Et ce n'est que vers 2100 que ce site d'enfouissement des déchets nucléaires sera définitivement scellé.
Accent d'Europe, Donatien Cailleux à la réalisation. Pour nous écouter et nous réécouter partout, notre podcast est sur toutes les plateformes de streaming et sur RFI.fr, bien sûr. Merci et à demain.